Radio Campus Paris fouine dans ses archives pour vous proposer une balade sonore consacrée au reportage. Commençons tout de suite avec 37.2, l'émission qui dresse le portrait des anonymes de la capitale depuis 2011. Écoutons tout de suite cet extrait de janvier 2017.
Cette semaine, 37.2 va en profondeur pour rencontrer Marvin. Vous l'avez peut-être déjà vu et sûrement déjà entendu au détour d'un couloir venteux du métro parisien, alors qu'il baritonne, a cappella et toujours à contre-courant de la rue et des voyageurs, une chanson d'anthologie du jazz américain. Vous n'entendrez pas son savoir encyclopédique de toute l'histoire du jazz dans les infimes détails des artistes et des concerts, ni la montée en puissance de Marvin sur les réseaux sociaux. À cheval entre son américain originel et son français adopté, vous entendrez le trajet insolite de Marvin depuis sa ville natale de Baltimore jusqu'à ses rencontres plus ou moins chaleureuses engendrées dans les entrailles de Paris.
Quelques mois avant d'arriver à Paris, je blaguais avec un ami. Je lui ai dit que je ne savais pas comment j'allais payer pour ce voyage et que j'allais sûrement devoir chanter dans la rue ou dans le métro pour des pièces. Mais j'ai fait ça ici parce que je n'avais pas le choix. J'étais dans une situation où c'était ma seule solution.
And so j'ai créé le Marvin Parks American Jazz Singer actuellement dans le métro. Et je pensais, ça marche. Marvin, c'est totalement. Je dis ma place de origine, ma nationalité, je suis un chanteur et mon nom. Et le style de musique, le genre de musique. C'est très, très simple. 5 mots. Marvin Parks, American, je suis American. Jazz, je chante jazz singer, je suis un chanteur de jazz. C'est très, très simple. Yeah, c'est très simple. Parce que j'aime la musique. J'aime la musique. Vraiment. Très, très fort. Mais je suis un chanteur de jazz. J'aime le standard américain, le jazz répertoire. Le répertoire de télévision et cinéma classique, mais mon approche à musique, c'est pas classique ou traditionnel ou modern. Je chante simplement. La chose plus importante est de dire l'histoire. Je suis ici maintenant. Pas le 1920s ou 1930s. C'est très, très stupide
d'essayer de raconter une histoire, de chanter une chanson comme I Fall in Love Too Easily, comme si on était en 45. Je dois changer les paroles.
I Fall in Love Too Easily, par exemple, to Marvin Falls in Love Too Easily.
Je pense que mon numéro est unique parce que je suis là, tout seul. Les gens se disent, bah voilà, ce mec est là et il chante, tout simplement. Et quelquefois, ils s'arrêtent pour parler. Ils m'appellent Melvin, Martin Sparks, Melvin Paul. Un jeune homme m'a dit, je vous ai cherché partout sur Internet et je n'ai pas trouvé Paul Marx.
And I didn't see Paul Marx any.
Ladies and gentlemen, on the subject of my name, it's Liza Montezine, not Lisa with an S, because Lisa with an S goes snub.
I just need something to collect money.
J'avais juste besoin de quelque chose pour recueillir de l'argent.
And so I went to this shop.
Donc je suis allé dans un magasin à Montmartre et j'ai acheté un chapeau avec des paillettes rouges. Je l'ai appelé Lisa. Parce que j'avais vu un clip de Liza Minnelli où elle est habillée tout en rouge. Donc je me suis dit, il faut que je m'achète un chapeau comme le sien.
Liza. Physiquement, je suis parisien. Paris est mon nouvel abri adopté. Dans mon cœur, Baltimore, all the way. You can't, c'est pas changé. You can't change.
Quittons Marvin, mais restons dans les entrailles de la capitale en compagnie d'une émission diffusée en octobre 2015.
Écoutons donc cet extrait de
« On va vous chercher des noises ».
Aujourd'hui, on va chercher des noises à la musique dans le métro. À première vue, ce n'est pas la meilleure terre d'accueil. Il y a beaucoup de bruit, le public ne s'arrête pas pour écouter les musiciens. Tout porte à croire que la musique qu'on y rencontre compose un monde marginal où les musiciens ne jouissent que de peu de crédits artistiques. Et pourtant, ce réseau souterrain de 220 km est peut-être la plus grande scène musicale de Paris. Paradoxe, il est interdit de jouer dans le métro à moins d'avoir une accréditation. Celle-ci autorise à s'installer dans les couloirs uniquement, même si les études statistiques démontrent que le revenu obtenu est largement supérieur dans les wagons.
Je pense que là où il y a un vrai public, c'est dans les rames où les gens sont assis et où il y a 500 Bulgares qui jouent certains bien, même très bien, et d'autres très mal. Sur 1000 personnes, il y en a 2 qui vous écoutent dans les couloirs. Dans une rame, sur 1000, il y en a 900 qui vous écoutent, parce que les autres, ils ont un casque.
Et en fait, quand je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais quand on est dans les wagons et qu'il y a un musicien qui monte et puis on se demande si ça va être chouette ou pas, et quand c'est pas terrible, ben on a hâte de descendre du métro.
En 1997, il y a moins d'une vingtaine d'années, un service entier est consacré aux musiciens dans le métro, l'espace Métro Accor, avec à sa tête Antoine Nazo. Métro Accor organise 2 castings par an, à l'automne et au printemps, et délivre environ 250 accréditations valables 6 mois. Son rôle est d'apporter une âme à un univers purement fonctionnel, tout en assurant la qualité du service musical et en veillant à ce que l'exercice de la musique n'importune pas les voyageurs et ne soit pas source de conflits entre musiciens. Métro Accor se veut également un tremplin pour jeunes artistes et il est véridique que le métro offre un espace d'expression à qui désire se faire connaître.
Je chante dans le métro, dans la rue, peut-être de France, hein, j'attends toujours mais...
Le métro a lancé des artistes tels que Kezia Jones, Danny Brion, Manu Dibango, Ben Harper, Lame ou plus récemment Anis, William Baldé, Peps et Zaz. Donnant, beaucoup d'artistes ont rendu hommage au métro de façon plus ou moins positive. Il y a eu Gainsbourg et son poinçonneur des Lilas, Renaud et sa jeune fille du métro, Edith Piaf, le groupe Téléphone, dans une moindre mesure les Beatles et toute la pléthore de titres conçus à partir de l'expression consacrée Métro Boulot Dodo, initialement tirée du recueil de poésie Couleur d'usine de Pierre Béarn, publié en 1951. Tout ce beau monde musical contribue à l'identité sonore du métro qui se veut cosmopolite, surprenante et diversifiée. Le paysage sonore du métro est en 3 dimensions. On y trouve l'humain qui s'exprime au travers des musiciens et des voyageurs qui marchent, bavardent et grognent. Mais aussi la mécanique ferroviaire avec ses bruits de moteur, de porte, ses moultes vibrations et crissements. Enfin, place à la publicité et celle d'abord de la RATP. Entre jingle et spot, un petit extrait de Ticket Chic, Ticket Choc, apparu en 1982. La sociologue Anne-Marie Green, dans son ouvrage Musicien de métro, approche de musiques vivantes urbaines, publié chez L'Harmattan en 1998, pense la musique dans l'espace du métro comme ce qui permet de faire communication dans ce lieu où l'usage veut que l'on s'accorde mutuellement une inattention polie. Madame Green considère que la musique peut transformer un espace banal en un univers de rêve où les songes entremêlés qu'hallucinent tous ces gens qui passent créent un univers fantastique qui est à la fois à tout le monde et à personne. La musique, donc, dans cet espace de voyage, peut instaurer un rapport au temps différent du temps psychique quotidien, vous transporter tout à coup ailleurs. Par exemple, les musiciens d'Elvire, ces Ukrainiens qui jouent dans les couloirs des grandes correspondances.
Ah mais je les connais déjà parce qu'en tant que voyageuse, je les ai vus déjà à Châtelet, à Franklin Roosevelt. Ça donne un écho, c'est merveilleux, on se croirait un peu dans les champs de l'armée russe. Ils nous vendent du rêve. Le nombre de gens qui s'arrêtent, mais c'est incroyable. Ils arrivent à capter tout le monde, même la personne qui est pressée, qui va à son boulot. Ben je crois qu'elle prend quand même au moins une minute pour les écouter. C'est ça qui est fantastique.
C'était le témoignage de l'une des jurys des auditions de Métro Accor de cet automne, auquel nous nous sommes rendus. Ce jury est choisi au sein du personnel de la RATP qui désire participer à la vie de l'entreprise, à la condition d'avoir l'oreille musicale et de pouvoir imaginer ce qui plairait le plus aux usagers.
Chaque groupe peut être bon. Le problème, c'est qu'en fin de compte, chaque musicien, il faut le mettre dans le contexte du métro. Il faut qu'on tienne compte aussi de tout ce qu'il y a comme bruit autour. Donc il faut que ce soit un juste milieu, que ce soit pas trop faible non plus, mais que ce soit pas trop sonore, pour qu'en fin de compte, le voyageur ait le sentiment que ce soit agréable, mais que ça rajoute pas du bruit au bruit.
Les musiciens du métro accrédités ne gagnent généralement pas leur vie que dans le métro. Ils se posent la plupart du temps la question d'en sortir. Pour conclure, quelques considérations de musiciens de métro sur vous, public, qui prenez le métro.
Vous savez comment est le Parisien qui prend les transports en commun, surtout à République à 18h ou à 19h. Il est pressé. Voilà, il prend sa connexion. Du coup, il se fait réveiller, mais bon, le temps d'un couloir.
Ils sont bavards. En fait, comme ils pensent que jour on est là, dans le métro, on peut discuter. Alors, ils sont bavards, ils se posent, ils s'installent. On m'a donné de l'attention, on m'a donné des regards, on m'a donné de l'amour, de l'énergie, de l'échange, un partage. On m'enrichit de plein de choses, en fait. Qu'ils aient de l'argent ou pas, les jeunes donnent en fonction de ce qu'ils reçoivent.
Prenons maintenant le métro, direction le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Et laissons la parole aux habitants du quartier avec cet extrait de l'émission « À vous la Goutte d'Or » diffusée en février 2017.
Bonjour, nous sommes Radio Campus Paris. Et vous êtes ?
Je m'appelle Aziza, je suis d'origine tunisienne. Et aujourd'hui, je suis tunisienne française. Un pied là, un pied là-bas, parce que je passais plus ma vie à Paris qu'en Tunisie. J'habite à côté rue de Deauville. Ben, ça fait 37 ans que j'habite.
On est là. Si on parle de Barbès, c'est un quartier très sombre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vraiment un quartier où tu vas voir des trucs que tu vas pas voir dans d'autres coins du 18e, comme dans d'autres arrondissements, tu vois.
D'un côté, Aziza, infirmière à la retraite. De l'autre, le jeune rappeur Guy de Besbar. Entre eux, peu de choses en commun si ce n'est un quartier. Et ça fait déjà beaucoup. Ce mois-ci, c'est à travers une interview croisée que Junior et Senior racontent leur goutte d'or. Le premier au micro de Charles et Larry Fessoni à l'Espace Jeune, la seconde avec Laetitia Fernandez au Café Social.
Est-ce que en genre, on va dire trois mots, tu pourrais résumer Barbès en trois mots?
Violent, pas sociable et enfermé.
Enfermé?
Ouais. C'est comme ça que moi je vois les choses. Après, Barbès, c'est vrai que c'est un quartier avec de la répute aussi, tu vois. J'ai vu des scènes aussi qui m'ont marqué quand j'étais petit, tu vois. On kiffait raconter, ouais, lui, t'as vu, il a fait ça, nanana, tu vois ce que je dirais, ça s'est passé comme ça. Et c'était charmé d'assister à des scènes comme ça, tu vois.
J'ai vu un ami qui a été opéré à l'hôpital américain. Et j'ai vu des gens qui se cachaient sous les porches. J'ai eu la fosse, vraiment la fosse, le temps de sortir de là pour arriver au métro.
Alors que dans le quartier de la Goutte d'Or, finalement, il y a tout.
Non, je sors vraiment jusqu'au dernier métro. J'avais pas peur. Au début, on m'a embêté un peu pour me draguer, soi-disant, puis je les ai envoyés balader. Après, ils m'ont respecté, je pense qu'ils me reconnaissent et disent, celle-là, on ne peut pas la voir.
Pas sociable, plutôt. C'est vraiment... c'est juste, c'est comme ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? On est QLF, tu vois, comme dirait PNL, tu vois. C'est que la famille, tu vois. C'est vraiment méga, 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 tu vois. Il y en a que j'ai pas grandi avec eux, frère. Je les estime normal, tu vois. Il y en a comme qui j'ai grandi avec eux. Quand je pense à comment j'ai grandi avec eux, tu vois ce que je veux dire? C'est, quand je te dis pas sociable, c'est, on a très beaucoup de mal à se mélanger, tu vois, et même dans les quartiers du 18e, tu vois. Tu pourras jamais dire Barbès c'est collé à ça, Barbès c'est collé à ça, tu vois. C'est vraiment Barbès, mettez-nous à part, tu vois. On veut personne, tu vois.
Ça a changé aussi.
C'est-à-dire?
Alors, avant, c'était cosmopolite. Je n'aime pas les ghettos, moi. Par exemple, le commerce. Il n'y a plus de commerce en français, presque. Et je ne suis pas d'accord du tout non plus. Il faut que ça redevienne comme avant, que chacun a sa part. Tous les Français sont partis, les commerçants. Est-ce c'est par peur? Je ne sais pas. Je trouve que c'est très dommage.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier?
Bien, il y a beaucoup de chaleur parce qu'on se rencontre les uns et les autres. On partage beaucoup de choses. C'est un quartier à toute heure, on peut trouver et tout. Même la nuit, il y a une boulangerie, par exemple, ouverte toute la nuit. À Château Rouge.
Pour continuer à enfermer, c'est très dur, très dur. Quand t'as attaché à Barbès, d'y sortir.
D'y sortir dans quel sens?
C'est un aimant, frère.
Professionnellement?
Professionnellement, personnellement aussi, tu vois ce que je veux dire. Mon daron, il me disait rentre à 18h. J'avais tout pour rentrer à 18h, mais j'arrivais pas à rentrer à 18h, frère. Eh frère, le square, c'est un aimant, frère. Au moment où tu veux partir, il y a un nouveau truc, tu vois. En mode, tac, il y a un gars, il ramène sa balle, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'était comme ça avant, tu vois. C'est un quartier qui enferme les choses. Il y a plein de gens ici qui auraient pu percer, frère, je sais même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais même pas, je sais quoi qui a fait qu'il perçoit. Quand je suis déjà enfermé, encore, il y a quoi ? Il y a tes potes.
Comment vous voyez l'avenir, là ?
Il faudra que chacun fasse des efforts. Il faudra, par la culture. Par la culture, par les rencontres, pour ne plus avoir cette peur. Et je pense le fait d'être agressif et hargneux, ça met de la haine. Et il faut chercher les rencontres, les débats, ensemble.
Suivons les conseils d'Aziza et poursuivons nos rencontres avec les habitants du quartier de la Goutte d'Or. Les journalistes en herbe au micro de l'émission Les Petites Ondes, diffusée en 2017, nous rejoignent pour enquêter autour de la question
« Qu'est-ce que c'est l'insolence ?»
Bonjour, comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Monsieur Waka.
C'est quoi pour vous l'insolence ?
L'insolence, la persécution, la répétition, quand on prévient une fois, et ça continue.
Est-ce que vous avez des souvenirs quand vous étiez petit d'insolence ?
À l'époque, on allait étudier. On n'y avait pas d'insolence. On avait peur de la maîtresse. Pourquoi vous n'avez plus peur ?
Moi, j'ai pas peur.
Elle
est pas méchante.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'insolence ?
L'insolence, très bonne question, l'insolence. Alors, définition, je te donne un exemple si tu veux, mais la définition, ce serait pas très bon. En gros, faut écouter les gens qui sont plus grands que toi.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'insolence ?
Le fait de ne pas respecter les gens et de se croire au-dessus des gens, voilà.
Est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous étiez insolent ?
Oui, ça arrive, oui. Même maintenant, d'ailleurs. Même au travail.
Est-ce que l'insolence, ça peut vous aider ?
Oui, oui. D'ailleurs, dans l'histoire, je pense qu'il y a des gens qui sont connus pour être insolents. Après, dans la forme, ça peut choquer certaines personnes, mais au moins, ça peut faire avancer des choses.
Je m'appelle Laura, je suis la directrice du centre de loisirs de l'école.
Est-ce que dans l'école, vous avez déjà vu de l'insolence ?
Oui, j'ai déjà vu des insolences dans l'école, oui. Beaucoup.
Pour vous, c'est quoi l'insolence ?
C'est quand il y a un manque de respect, quand on se parle mal, quand on ne se supporte pas, quand on est... Oui. C'est ça ?
Avant, quand vous étiez petit, vous étiez dans une école, est-ce que vous étiez insolente ?
Alors non, moi je disais pas de gros mots, je respectais, mais je disais ce que je pensais.
Est-ce que pour vous, l'insolence, ça peut servir pour une cause ?
Voilà, alors là... oui, mais il faut être très grand, il faut être très grand. À un moment, on peut dire aussi des choses... Et puis... Moi, je crois que c'est pas l'insolence. Après, c'est ce que tu mets sur l'insolence. Mais tu peux dire des choses, tu n'es pas d'accord, tu parles poliment, mais respectueusement, et tu dis les choses. Ça peut être pris pour de l'insolence.
Pour vous, c'est grave, l'insolence ?
Ça dépend. Ça peut être formidable, des fois, quand c'est bien... Enfin, je... Dis donc, c'est poussé, hein, ton interview. Elle est poussée, hein. C'est poussé. Ça fait réfléchir, parce qu'il faut savoir ce que c'est que l'insolence. Et ça, c'est très, très compliqué de dire ce que c'est. Le fait, c'est ne pas manquer de respect, je crois. Ça, c'est ça, en fait. Hein. C'est toujours respecter la personne et respecter les différences. Après, tu peux tout dire. Si tu as les mots, c'est pour ça qu'il faut beaucoup lire, pour pouvoir dire ton avis sans être insolente. Je crois que c'est ça.
L'insolence, alors, comment je pourrais t'expliquer ça ? Quelqu'un qui est insolent, c'est quelqu'un qui répond pas forcément quand il a le droit de répondre, qui répond pas de la bonne manière.
Est-ce que quand vous étiez petite, vous faisiez de l'insolence ?
Ça, voilà. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Si je pourrais recommencer, je ne le serais pas.
Moi, c'est Ibrahim. L'insolence, c'est des deux côtés, hein, ça dépend. Si un manquage de respect, c'est là, après, ça monte et après, ça devient de l'insolence. Mais si tout le monde s'entend bien, il n'y aurait jamais d'insolence.
C'est quoi l'insolence pour vous ?
Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je m'appelle Sonia. L'insolence, c'est quand on respecte pas les autres, pour moi.
Est-ce que ça peut servir des fois?
Sous l'énervement, ça peut servir, on va dire. Mais ça ne sert à rien, en fait.
Si, par exemple, quelqu'un, il y a une guerre dans son pays, et bien en France, il n'a pas ses papiers, et on n'a pas le droit de l'aider, et aussi on n'a pas le droit de lui dire qu'il vient dormir chez nous. Vous pensez quoi de ça?
Moi, je pense après que c'est chacun selon son envie, en fait. Si tu as envie de l'aider, de faire plus, tu le fais. C'est une question morale, en fait.
Mais justement, qui sont ces acteurs qui s'engagent pour aider les autres? C'est ce que nous allons découvrir dans cet extrait de l'émission « À bras ouverts » diffusé en 2017.
We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
Bonjour à toutes et à tous, c'est À bras ouverts, la série de portraits estivales pour comprendre ce que sont ce que l'on appelle les campements de réfugiés dans le nord de Paris et comment les solidarités s'organisent. Aujourd'hui, nous écoutons Pierre et Joe de l'association BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Deux bénévoles pour un cours de français un peu particulier, car c'est un cours de rue. Pierre et Joe, c'est à vous.
On va faire les poulets de pronoms et après je mettrai les verbes, je vais conjuguer les verbes. Comme ça au tableau, d'accord.
Je m'appelle Pierre, donc je suis venu un jour par hasard, pas par hasard, je suis venu un jour parce que j'en avais assez de regarder la télévision et de voir les réfugiés à la télévision, donc je suis venu un jour sur le canal Saint-Martin et je suis tombé en plein dans le campement des réfugiés, donc j'ai parlé un peu avec quelques réfugiés, ensuite je me suis déplacé jusqu'à la rotonde de Jaurès et sur les escaliers qui sont sur les côtés de la rotonde, j'ai assisté, j'ai vu des gens qui donnaient des cours de français.
Je parle français. Je ne parle pas français.
Je m'appelle Jo, j'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 3 ans. On est ici sur la place Stalingrad, enfin au niveau de Jaurès. Je donne des cours maintenant depuis 9 mois, à 18h30 le soir jusqu'à 19h30. Pour eux, c'est très facile de venir. Comme c'est en extérieur, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Ils viennent quand ils veulent ou ne viennent pas. Mais c'est eux qui choisissent. Ça les laisse totalement libres. Et justement, cette liberté fait que pour beaucoup d'entre eux, ils sont très vite accros et très vite assidus. Donc ça, c'est un avantage. En plus, ça ne se cantonne pas à leur donner un cours. On est là aussi pour les aider dans leur démarche, papier et tout et autres. Donc, au-delà de 7 heures de cours, on est disponible une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure.
Les élèves, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui ont fait des études universitaires. Depuis que je suis avec eux, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, complètement. Déjà, moi aussi, j'ai un choc culturel par rapport à eux. Et par exemple, quand je rentre de la classe, je rentre en Vélib, que je passe par les quartiers un peu chics, que je vois des gens à la terrasse en train de picoler et tout ça, ou de s'amuser. Le beau confort français, ça me paraît tellement désuet par rapport à leur vie, à leur réalité à eux. Et en fait, mon monde, c'est devenu un peu. Leur monde est devenu un peu mon monde maintenant. J'ai hébergé un réfugié chez moi qui avait plein de cicatrices sur le corps, partout, parce qu'il s'était douché, et j'ai vu qu'il avait plein de cicatrices. Il m'a dit que c'était en Hongrie, on lui avait lâché les chiens, la police avait lâché les chiens sur lui, quoi. Il s'est fait bouffer par les chiens, carrément. Alors, le BAM, moi, je parle en mon nom, c'est une association que je dirais politisée, mais pas dans un parti politique, mais on fait un acte politique, on s'occupe des réfugiés. Alors le BAM s'occupe des problèmes juridiques, des problèmes de santé, des cours de français, et de loger aussi, de trouver des logements pour les gars.
Quand on entre au BAM, on nous demande d'assister aux 3 niveaux de cours, au moins une fois dans chaque niveau. Moi, je pense que j'ai dû passer 5 fois dans chaque niveau, de franchir le cap, c'était vraiment très difficile pour moi.
Le BAM a dit qu'on ferait les cours à l'extérieur tant qu'il y aurait des gens qui dormiraient dans la rue.
Pour moi, c'est important d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés. C'est vraiment en dehors de la religion, de tout. Pour moi, ça me paraît vital d'aider les autres et je ne peux pas comprendre qu'on laisse des gens à la rue. Je ne peux pas comprendre qu'on ne les aide pas, qu'on ne leur donne pas les moyens de se débrouiller ici. Et les moyens de se débrouiller, ça passe par la parole, par leur donner les clés du langage.
Et cette parole, elle trouve aussi un écho dans la poésie. C'est ce que nous allons entendre dans cet extrait de l'émission « L'œil à l'écoute » enregistré en 2007 à l'occasion d'un atelier de lecture dédié à Baudelaire. C'était à l'association Emmaüs du 11e arrondissement.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Здравствуйте.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Je m'appelle Barikissou. Je suis béninoise.
Je suis Minh Anh. Je suis vietnamien.
Oui, je m'appelle Nidia. Je suis française d'origine colombienne.
Je m'appelle Mehmet. Je suis turc.
Je m'appelle Shilpi. Je suis bangladeshi.
Je suis Tianga. Je suis vietnamienne.
Bonjour. Je suis Saipul Islam. Je suis bangladeshi.
Je m'appelle Galina.
Je m'appelle Ming. Je suis chinois.
Je m'appelle Razier. Je suis turc.
C'est un délice.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie?
J'ignore sous quelle latitude elle est située.
La potée.
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or.
Je le hais comme vous haïssez Dieu.
Et qui aimes-tu donc extraordinaire étranger?
J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
El extranjero. Hombre enigmático. Dime a quién amas más. A tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano.
No tengo padre ni madre, ni hermana, ni hermana.
¿Tus amigos?
Usas una palabra cuya sentida me es desconocido hasta hoy.
¿Tu patria?
Ignoro bajo qué latitud está ubicada.
¿La belleza?
Con gusto la María, diosa inmortal.
¿El oro?
Lo odio tanto como usted a Dios.
¿Qué amas entonces, extraordinario extranjero?
Amo las nubes que pasan. Allá, allá, maravillosas nubes.
Y sur ces mots, partons maintenant dans le 20e arrondissement pour retrouver l'émission J'ai deux amours diffusée durant l'été 2017. Tendons l'oreille pour écouter l'histoire d'un Espagnol passionné expatrié à Paris.
Antonio a 33 ans, il est espagnol. Il vient de Montijo, un petit village de l'Extrémadour dans le sud-ouest du pays. Au parc de Belleville où il m'a donné rendez-vous, il arrive avec des dépliants, des guides touristiques, toute la documentation qu'il a pu rassembler sur sa région. Il en parle avec passion.
Extremadura est l'épicentre du monde ibérique.
Son histoire, sa culture.
Toutes les cultures ont passé pour Extremadura. Les juifs, les musulmans, les romains.
Sa nature.
C'est une région pleine d'eau, pleine de nature, la forêt méditerranéenne. Extremadura, tout vraiment, tu peux faire un safari. Mais ce n'est pas une région perdue, non, non.
Sa qualité de vie.
Les gens vivent exceptionnellement bien.
Il arrive en France il y a 6 ans pour travailler à La Défense. Dans une société de logiciels.
Pour moi, la défense, c'est un monde de raquins. Ça les transforme. L'argent, l'ambition, c'est pas la vie que je veux faire jamais.
Très vite, il décide de se reconvertir et monte sa propre société.
Je suis spécialiste en jambon ibérique, un jambon de ma région, qui est le premier producteur du monde, un produit unique, qui vient de la forêt méditerranéenne avec notre porc ibérique, qui est nourri au gland, bellota. J'ai fait des animations, j'ai fait des masterclass, j'ai fait des conférences pour ma région, je collabore avec le tourisme. Et c'est un lieu unique, Extremadura. Mal connu. Malheureusement mal connu, mais c'est injuste. Par exemple, mon jambon, que les gens pensent qu'il vient d'Andalousie, qu'il vient d'Andorre. Pour ça que, si tu veux, j'ai une mission. Que le monde sache Extremadura et Extremadura s'ouvre le monde. Et c'est comme disait Kennedy, ne te demande pas ce que fait les États-Unis pour toi, ce que tu fais pour les États-Unis. Il y a dit une chose qui est en faveur de la France, de comment la France m'a aidé. Pour créer mon entreprise, je suis allé à la Chambre de commerce de Paris et m'a aidé comme un Français, vraiment. Tout facile, par exemple, maintenant j'ai fait la déclaration de Saint-Paul en 5 minutes, en 4 clips, j'exchange la Marseillaise après ça. Vraiment, il y a des moments que je sens la Marseillaise à mon intérieur de Viva la France et des fois quand je sais pas, je viens de Madrid, Madrid ne me plaît pas tellement, et je rentre à Paris, je dis waouh, j'ai chez moi finalement parce que depuis des années, mes amis, ma vie, ma société, mes clients, les gens qui m'attendent sont ici. Chez moi, Paris te permet de faire tout ce que tu veux. No? J'ai fait des tangos, j'ai fait des danses contemporaines, j'ai fait des yoga, des concerts de musique touareg, de musique de Cabo Verde. C'est la capitale mondiale.
Quand tu rentres chez toi en Espagne, qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie parisienne?
Le cosmopolisme. Quand je suis à la piscine, par exemple, à Montijo, à mon village, je vois un Africain et je vais nager où est lui. Et je demande en français directement, ça va? Et il me répond, ça va bien. Tu es d'où? Du Sénégal. Oh! Et je commence à parler avec eux. Et ça me manque. La France, c'est pas comme l'Italie. Dans le sens que tu comprends l'Italie facilement. Les Italiens, à tout d'une façon, mangent d'une façon à table. La sociologie française est beaucoup plus complexe. Je sais, depuis qu'ils sont ici, et encore, je suis curieux de c'est quoi la France. Et à Paris, en Provence, je voyage en Provence, je fais la comparaison. Et les immigrants qui sont ici, depuis dans les 11e, 20e, 19e que j'ai fait ma vie, je sais beaucoup les gens d'origine immigrante, je parle avec eux. Je ne me considère pas un immigrant. Je ne suis pas en France, si tu veux, pour travail. Je travaille, je fais une chose bon, parce qu'il me plaît Paris, mais le que j'ai fait, je pourrais le faire à Copenhague. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne sont pas venus en France pour plaisir ou pour amour, pour cette culture, et c'est difficile. Des fois, tu doutes si continuer à Paris. La vie est dure, l'attitude des gens c'est dur. Je trouve que les gens ne sont pas eux-mêmes. C'est la conclusion que j'ai arrivée depuis des années ici. Et le français est une personne fabuleuse. Je trouve qu'ils sont de bonnes personnes. Ils sont des gens cultes, curieux, ouverts. Mais des fois dans les groupes, dans la rue, dans l'inconnu, tu vois, il manque un peu de spontanéité. Parce que le français finalement est spontané, mais ne le montre pas. Que tu es, par exemple, dans un cours de tango, que c'est quelque chose de loisir, quelque chose de plaisir, et les gens sont contractés tout le temps. Je trouve que les Français, beaucoup, se contractent. Les gens prennent un rôle dans son travail, dans sa vie. Et pour moi, le pire que tu peux faire une ville est de te transformer en pire et renier le que tu es. Je pense que j'ai le fait. Et que maintenant ne m'importera pas quitter Paris, sérieusement. Même si quand tu sors te manque, mais je pense que c'est pas une ville pour toute ta vie.
Merci pour ce témoignage, Antonio. Et si nous aussi nous partions ailleurs?
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Ok, d'accord, ouais, bah l'Amérique du Sud, ça me tente bien.
Bah alors viens, on va écouter l'équipage de Campus Airlines qui a justement dédié une de ses émissions au Chili. C'était en octobre 2010.
Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Vous avez pris place à bord à destination de l'avion de Campus Airlines. Vous êtes bien, hein, on est bien, on est en première classe même ce soir et on va partir de très très loin aujourd'hui. On va partir au Chili. Et oui, un pays qu'on connaît peu, un Chili qu'on sait en Amérique du Sud, mais à part ça, qu'est-ce qu'on en sait? Bah, on va voir ça dans la suite de l'émission. Évidemment, on retrouve deux invités cette semaine. On aura d'abord Camille, une Française partie au Chili pendant un an. Elle va nous en dire plus. Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Alors toi, t'es partie pendant un an en échange à l'université Diego Portales, c'est ça?
Ouais, voilà.
Et donc t'es à Sciences Po, on peut le dire aussi.
Oui.
Et donc t'es parti, c'était il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans, c'est ça?
Je suis partie il y a 2 ans, ouais. C'était 2008-2009.
Bon, mais c'est encore frais dans ta tête, ça, y a pas de problème.
Ouais.
Ok, super. Évidemment, on aura une chilienne pur jus, pur sucre, qui s'appelle Daniela. Elle est encore coincée dans les transports. Alors, est-ce que les Chiliens sont en retard? C'est une question qu'on se posera aussi. Mais évidemment, elle arrivera un peu plus tard dans l'émission. Ne vous inquiétez pas. Et puis après, on aura, comme d'habitude, une émission bien, bien épicée, bien dense, hein, avec ce sommaire. Puisque, on va retrouver aussi Romain. Romain, bonsoir.
Salut, JB. Salut tout le monde.
Comment ça va la semaine?
Ça va très bien.
Bon, super. Alors Romain, toi, on te retrouve pour le Pékin Express. On va le voir dans quelques minutes. Hein. Une séquence que tu maîtrises maintenant. Hein. On peut dire que tu vas voir.
Je suis le master des Pékins, on va dire.
C'est ça.
Voilà,
master des Pékins.
Je les croise et ils viennent tout de suite à moi maintenant. C'est magique.
Et alors pendant le voyage, t'auras un truc un peu bizarre. On traversera une zone de turbulence, je crois.
Ouais. Je vous conseille d'accrocher vos ceintures.
Et oui, et surtout que ce sera quelque chose sur les tremblements de terre. Hein.
Exactement.
Le Chili est sur une zone sismique importante. On va en parler plus tard dans l'émission. On aura aussi à côté de Romain Aline. Aline, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Impeccable.
Super. Alors Aline, ce sera notre hôtesse de choc de premier choix puisqu'elle va nous apporter un super plateau repas dans l'avion avec
du champagne.
Et
du vin, voyons.
Et oui, du vin, le vin chilien, attention. Mais il y a peut-être du champagne ou un vin pétillant, non, Camille ?
Non, plutôt le vin, ouais.
Plutôt le vin. Elle nous a fait un super plateau repas, ça va parler completo, ça va parler...
Empanadas.
On en salive d'avance, excusez-moi. Et puis, on retrouvera évidemment aussi Mathilde pour ses infos pratiques. Voilà, donc on est paré au décollage, évidemment. Ah, Mathilde me fait signe. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Baptiste.
Comment ça va ?
Très bien.
Bon, alors toi, t'as des super plans, des super infos pratiques. Comment partir, le visa, tout ça, quoi.
Oui, voilà, tout ça, quoi.
Bon, super. Et ben, on va voir ça dans la troisième partie de l'émission. En attendant, évidemment, on retrouve tout de suite le Pékin Express, puisque Romain... Toi, t'es parti à la recherche du Pékin, alors dis-nous en plus.
Eh ben, le Pékin était particulièrement affable sur le Chili, hein. J'ai été un peu surpris, je pensais pas que les gens savaient autant de choses sur le Chili. Alors, ils savent des choses fausses aussi, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Pékin.
Et oui, parce que le Chili a fait la une de l'actualité, je ne l'ai même pas dit, évidemment, avec les mineurs chiliens, les 33 mineurs chiliens. Alors, on va voir si les Pékins ont retenu ça dans la rue, c'est le Pékin Express.
Pékin Express.
Alors monsieur, parlez-moi un peu du Chili, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Les lamas.
Bah ouais, les lamas, les ponchos et tout ça, non ? C'est tout, je sais pas, ça me dit pas grand-chose, les montagnes aussi, non ?
Le joueur de foot beau séjour.
Bah Chili, ça me fait penser plutôt à tout ce qui est un peu pimenté, leur nourriture quoi, plutôt leur plat traditionnel. Je sais que ça doit être un pays exotique, plutôt comme on va dire le Mexique, ça me fait penser un peu au Mexique on va dire aussi. Les belles plages, tout ça, voilà quoi, Des belles filles aussi, sûrement.
L'Amérique du Sud, la température fraîche, paysage montagneux, forcément. L'accès à des villages serait assez difficile, assez crochu, on va dire ça comme ça. La fuite de Pan, vêtements en laine par rapport au temps.
Mine de cuivre, Pinochet, suicide, Allende. Square Allende en Seine-Saint-Denis et partout en France, Allende héros.
Le vin. C'est un des seuls pays qui n'a pas été touché par le phylloxéra. Donc c'est un pays du Nouveau Monde qui est en train de faire de belles choses au niveau de la vigne. La cordillère, c'est dans le Chili aussi. Il y a une partie dans le Chili, hein, la cordillère des Andes. Une partie de la cordillère des Andes également.
Moi, ça me fait penser à un pays festif. Ça me fait penser aussi, pareil, à la cordillère des Andes, à une nourriture bien spécifique. Et oui, la dictature de Pinochet, effectivement.
Le Chili con carne, haricots rouges, tomates, steak, oignons et piments. Beaucoup de piments. Moi, j'aimerais bien visiter parce qu'il y a des montagnes et il y a la mer. Il fait pas trop chaud.
Il y a eu une actualité récente et je dirais qu'il y avait des mineurs qui étaient bien enfouis sous terre. J'adorerais aller au Chili. J'ai mis pied en Amérique du Sud et ça me branche beaucoup. Montagne, le froid, la mer, c'est tout ce que j'aime.
Pour moi, ça m'évoque le vin pas trop cher. Parce qu'au Québec, je suis du Québec, le vin français coûte très cher. Donc lorsqu'on veut du bon vin qui va trop cher, on prend des Chiliens, des Argentins. Donc voilà, c'est ce qui me vient en tête.
Pékin, 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 Pékin.
du vin, Allende, des paysages, c'est voilà ce qu'on a pu récupérer dans la rue. Mais alors, avant toute chose, je souhaite dire quelque chose. Et Camille, notre Française partie au Chili, n'en demandera pas. Le chili con carne n'est pas chilien.
Pas du tout. Il le précise bien dans le guide du routard qu'il faut pas, en parler aux Chiliens.
Alors pourquoi ça s'appelle chili con carne? Est-ce que tu as une idée ou...
Parce que c'est juste le chili qui est le petit piment, mais qui est pas du tout. Ça a rien à voir avec le pays Chili. Bah, d'ailleurs, le Chili là-bas, ils disent bien Chile, donc c'est pas du tout chili con carne, c'est Chile.
Et oui, donc le chili est un piment et c'est un plat mexicain, je crois, le chili con carne.
Et après le Chili, nous remontons dans le nord-est du continent pour écouter un extrait de l'émission La Porte à Côté, diffusée en janvier 2015 et enregistrée en Guyane française.
Là-bas, aux abords de la forêt amazonienne, de nombreux Français nés en métropole se sont installés. Ils sont venus pour la base de lancement de la fusée Ariane, pour étudier la forêt ou simplement pour changer de vie. À la Porte à Côté, on a voulu en savoir un peu plus sur ces métropolitains qui ont décidé de laisser derrière eux l'Hexagone sans vraiment quitter la France. Reportage sur place de Martin Baudrero.
On vient en Guyane par hasard, et si on y reste, c'est pas du hasard.
C'est la Guyane qui te choisit, c'est pas toi qui choisis la Guyane.
C'est unique à Guyane. Si je pouvais, je resterais encore. Ça fait partie de ma vie.
Ça commence par une impression, celle d'avoir mis le pied dans un hammam géant ou dans une étuve. Une sensation confirmée par cette chemise qui colle à la peau. C'est peut-être d'ailleurs le seul cliché qui se confirme quand on sort de l'avion en provenance de Paris. 30 degrés, un taux d'humidité qui crève le plafond et pas la moindre brise. Et puis, il y a quelque chose dans l'air, on sent que la forêt n'est jamais bien loin ici. Bienvenue en Guyane, 250 000 âmes, morceau de France, à 8000 km de l'Hexagone, la seule forêt tropicale d'Europe.
Juste ici, tout va bien. Voici donc Kourou. Son campus et son McDo. Il y a toujours un McDo, de toute façon. C'est une suite de ronds-points, cette ville. On est toujours en France et on a nos ronds-points français qui sont toujours là. Les casernes des légionnaires, le 3e régiment étranger d'infanterie. On longe la base du 3e régiment et on va arriver chez Pierre.
Vu de l'Hexagone, Kourou, c'est la base spatiale, la ville de la fusée Ariane. Mais c'est aussi 30 000 habitants, un gros mélange de populations, chinois, noirs descendants d'esclaves, brésiliens et surinamais immigrés, et bien sûr les blancs, venus de métropole pour le boulot ou les études. Rien qu'à Kourou, ils sont plus de 5 000. La plupart sont de passage, il ne reste que quelques années avant de repartir. Frédéric, lui, est dans le département depuis 1997. Il est venu au départ pour suivre sa femme, une Guyanaise rencontrée en métropole. Depuis, il a fait sa vie ici et n'est pas prêt de repartir.
On est en France, mais en même temps, on n'est pas en France. Voilà, c'est ça qui m'a plu tout de suite. La population, déjà, le métissage, la culture qui est complètement différente, le climat qui est complètement différent. Moi, je suis... De Grenoble, je suis un peu un montagnard, alors ce côté proche nature, je l'ai retrouvé en Guyane, et ce qui m'a toujours plu, c'est le peu de monde, en fait. On peut rapidement être seul dans la nature. La Guyane, bon, même si l'eau n'est pas translucide, c'est pas grave, vous avez des kilomètres de plage, vous pouvez vous promener sans rencontrer personne, c'est des émotions aussi, ça. Il faut être ouvert, il ne faut pas être rigide. Et c'est clair que si on est trop rigide et qu'on exhibe à la face de tout le monde les lois françaises en disant « ici, on est en France, regardez A plus B plus C », je ne pense pas qu'on puisse vivre longtemps dans le département, ou en tout cas, on va vivre tout seul, puis à un moment donné... Les gens partent. Voilà, il y a des choses autorisées, des choses non autorisés, mais on est obligé de faire avec. Par exemple, le rapport au bruit, le rapport au voisinage, voilà, tondre sa pelouse le dimanche, enfin des trucs qui sont bien ancrés en métropole. Ici, c'est pas... Il faut être souple, quoi. C'est la vie un peu à la guyanaise, là, voilà. Il y a des choses que j'aime pas, en Guyana. Les administrations, c'est une catastrophe. La poste, la CAF, enfin, c'est une horreur. Mais voilà, bon, ça fait partie des aspects négatifs. Ben, si on ne peut pas le supporter, ben, écoutez, ben, il vaut mieux rentrer. Il vaut mieux rentrer en métropole, voilà. Tous les fois où je voyage, ça me fait le coup à chaque fois. Je descends de l'avion, j'arrive à Orly, je regarde les gens, je me dis, mais c'est... je ne suis pas comme eux, il y a un écart. J'écoute les conversations, je regarde la manière de vivre, enfin... Et en tout cas, aujourd'hui, là, je ne me reverrai pas revivre en métropole. La manière d'être, enfin, c'est quelque chose qui se dégage des gens, quoi. Je vois une différence. Et certainement, on voit la différence chez moi aussi, hein, je pense.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, alors restez à l'écoute.